je vois que personne ne s'est enfui. Ça veut dire, je vais continuer, mais je vais vous épargner la deuxième fête, l'entrée au temple, vous allez lire le texte. Je vais tout de suite passer à la troisième fête, l'Annonciation, parce qu'on va un pas plus loin dans notre réflexion sur la Vierge et l'ombre. La fête de l'Annonciation, fêtée le 25 mars, était au fond, c'est la fête de l'Incarnation. Nativité 25 décembre et l'Incarnation le 25 mars. Mais pour un peu mieux de comprendre le sens profond de cette fête, je pense que c'est intéressant de nous arrêter un instant, c'est pas sans signification, sur le gigantesque contexte liturgique dans lequel ce fait est placé. D'abord, je vais lire un texte qui est lu lors de cette fête. C'est un texte remarquable, je trouve, de l'Apocalypse. Et je cite. Un signe grandiose est apparu dans le ciel. C'est une femme. Le soleil l'enveloppe, la lune est à ses pieds, et 12 étoiles forment une couronne autour de sa tête. Elle est enceinte et crie dans les douleurs de l'enfantement. Puis, un second signe apparut dans le ciel. Un dragon immense, rouge feu, a 7 têtes et 10 cornes. Chaque tête étant couronnée d'un diadème. Arrivant devant la femme en plein labeur de l'accouchement, le dragon s'immobilise et se prépare à déchirer l'enfant dès sa naissance. Mais le dragon n'a aucune chance. Dès que la femme met au monde son enfant, un jeune garçon, celui qui conduira toutes les nations par son sceptre, l'enfant est enlevé vers le trône de Dieu, tandis que la femme, sa mère, s'enfuit dans le silence, dans l'ombre du désert, où Dieu lui a préparé un refuge sain et sauf, et où elle pourra se nourrir pendant 2160 jours. Fin du texte qu'on lit lors de la fête. Un texte très mystérieux. Mais il est clair que lorsque nous célébrons la fête de l'Annonciation, 25 mars, nous sommes en plein carême. Le carême est même bien avancé, proche de sa fin. Et le dimanche où nous rejoindrons le Christ et ses disciples, pour entrer à Jérusalem, est alors très imminent. Depuis la plus haute antiquité, la fin du carême est toujours marquée par des signes apocalyptiques. Pourquoi ? Parce que la passion et la résurrection du Christ confrontent chacun d'entre nous et le monde entier à sa propre fin. C'est la réalité inévitable de tout ce qui a été créé, y compris notre réalité. La fin se rapproche toujours et inéluctablement. En plus, cette fête de l'Annonciation est toujours très proche d'une autre fête, celle d'une autre Marie, à savoir Marie d'Égypte. La fête de Marie d'Égypte est célébrée le cinquième dimanche de carême dans le rite byzantin, lorsque nous nous préparons pleinement pour la grande passion. Je ne vais pas raconter son histoire, Elle était une femme qui a gagné sa vie comme prostituée sur un bateau et qui, après sa conversion à Jérusalem, s'est retirée dans le silence du désert pour le reste de sa vie. 48 ans, on dit. Sainte Marie d'Égypte, la prostituée, qui a trop cherché dans ce que l'on pourrait appeler une caricature de l'intimité humaine, quitte ses habitudes quotidiennes et cherche l'intimité du désert pour entrer ainsi dans son propre intimité, dans son cœur, où elle est accueillie dans l'intimité du Christ, dans l'intimité du vivant. Eh bien, tout comme cette femme voyante de l'Apocalypse dont on vient de lire le récit, qui est symbole du peuple de Dieu, qui enfante l'ère messianique, qui enfante le royaume de Dieu, chacun de nous, nous sommes aussi invités par toutes les lectures et les textes que nous entendons dans la liturgie à fuir le dragon à ses têtes, à fuir dans le désert, à fuir dans notre silence où Dieu nous a préparé un refuge. Ah, encore l'ombre, encore le désert. Le désert, le lieu symbolique de ce que nous appelons l'esychia, entrer dans son centre, où l'homme retrouve son cœur parce qu'il n'y a rien d'autre dans la vie. Nous voyons donc qu'ici, liturgiquement, nous sommes à la fête de l'Annonciation, à un carrefour des chemins. Le grand carême nous a amenés au seuil de la confrontation avec l'inévitable souffrance, passion, croix, mort et résurrection. Mais une fois de plus, nous posons la question. Quelle est notre attitude face à cette série de réalités? Comment me positionner? Comment pouvons-nous préparer à ces réalités dans notre vie quotidienne, mais aussi dans nos rituels. En d'autres termes, dans notre propre vie, comment affronter notre souffrance, nos passions, notre passion, notre croix, notre mort, et nous croyons notre résurrection. Si nous lisons la Passion du Christ, nous voyons que la scénographie de la spirale de la violence est presque une caricature du masculin, du monde extérieur, où la domination, la causalité, l'honneur et le pouvoir aux dépens des autres sont centrales. Mais, heureusement, le calendrier liturgique prévoit que le début de cette période de la violence et de la passion soit précédé par deux autres fêtes, deux femmes, deux maris, Marie d'Égypte et Marie, Mère de Dieu. On les appelle tous les deux filles humaines d'Ève, toutes deux donnant naissance à une nouvelle ère, un ère messianique, chacune à sa manière. L'Annonciation à la Mère de Dieu est donc la fête de l'incarnation. L'incarnation, dit notre traduction, de Fils de Dieu. Et une fois de plus, nous pouvons souligner que l'incarnation du Christ n'est pas quelque chose qui appartient seulement à l'histoire. Je voudrais évoquer très brièvement le monde des icônes. Dans de nombreuses icônes, et c'est particulièrement clair dans l'icône de l'Annonciation, elle est là, nous voyons une architecture très particulière, ce qu'on appelle la perspective inversée. Elle nous dit que l'événement représenté, qui a lieu peut-être historiquement, trouve sa vraie signification réelle, sa force transformative, sa pleine résonance dans notre propre être. Il a lieu dans l'architecture intérieure de nous-mêmes. C'est pour ça que vous voyez que l'architecture ne tient pas, parce que c'est une architecture intérieure. Cette fête de l'Annonciation est célébrée lorsque, très important, la nature se réveille de son hibernation silencieuse. Lorsque tout semble mort et que la terre donne les signes avant-coureurs du printemps à venir. La fête trouve son origine dans la salutation de l'ange Gabriel à Marie. Réjouissez-vous. Cette salutation est l'annonce de la bonne nouvelle. Mais il faut dire, c'est en quelque sorte ici la bonne nouvelle de la bonne nouvelle, parce qu'elle annonce la bonne nouvelle. L'incarnation de Dieu avec la déification de l'homme. Dans cette annonce, il faut se rendre compte, toutes les dimensions sont déjà présentes. La naissance qui va venir le 25 décembre, la vie, la kénose, la souffrance, la croix, la mort, la résurrection et avec elle, la libération du genre humain, des griffes du dragon, des griffes, des énergies négatives, des divisions, de la mort. Mais aussi, déjà, l'effusion de l'Esprit-Saint sur l'humanité, sur toute la création. Tout est présent dans cette incarnation, comme la graine annonce l'arbre entier. C'est pour ça qu'aussi, quand on plante un arbre, on tient compte de son avenir. Comment il va être quand il sera grand? Dans l'Annonciation, dans la fécondation, se cache déjà toute la vie. Tout est caché et en même temps présent, ici dans cette nativité annoncée. Il s'agit de bien clairement d'un mystère caché. On peut dire que l'Annonciation est en quelque sorte la face invisible de l'Évangile. Parce que le Christ n'est pas encore né. Il est en train de se tisser dans le ventre de la mère. Entre parenthèses, hier j'ai lu un extrait d'un roman de Leskov, magnifique, il dit que l'utérus de la femme avec l'eau est l'icône par l'excellence des eaux au-dessus du firmament de la Genèse. Je trouve ça magnifique. L'Annonciation est en quelque sorte, comme je dis, la face invisible de l'Évangile, la face cachée du Christ qui se tisse dans le sein de la Vierge. Cette face cachée du Christ à laquelle Marie, seulement elle à ce moment-là, est si intrinsèquement et intimement liée. Et le Trop-Père que nous chantons à cette fête se lit comme suite. Aujourd'hui, c'est l'aube de notre salut et de notre rédemption. La révélation du mystère de la vie et de la création cachée depuis toute l'éternité. Au fond, Dans cette fête, on lève les voiles. On lève le voile sur le mystère d'abord de la fécondité, sur cette incompréhensible conception d'une vierge. On lève le voile, au fond, sur le mystère secret qui habite le cœur de l'homme, le cœur de Dieu lui-même. Le mystère depuis toujours. Le mystère entre les hommes et Dieu. Le mystère l'homme-Dieu, divino-humain. Le mariage mystique entre Dieu et l'homme. Dans la naissance annoncée ici, nous apprenons que depuis toujours, au fond, l'homme est le visage caché de Dieu. Et Dieu est le visage caché de l'homme. Dans cette naissance annoncée ici, au fond, le voile est levé sur toutes les naissances. Chaque fois qu'un être humain naît. Et nous allons plus loin. C'est le voile qui est levé sur toute forme de vie, mais avec lesquelles nous sommes plus habitués à vivre. Les animaux, les plantes, les minéraux, tout est lié, tout vit. La mise en scène iconographique est de nouveau très particulière. Une vierge donnant naissance à une nouvelle vie sans l'intervention d'un homme, sous l'influence de la puissance et de l'essence de Dieu lui-même. Là encore, comme ce matin, une oreille superficielle pourrait y voir une naïveté historique ou même, comme ça a été souvent le cas, une condamnation morale de la sexualité humaine. Ce n'est pas du tout cela. Au contraire, cette conception virginale n'implique aucune condamnation ou dédain de la maternité humaine. Au contraire, elle veut nous montrer que ce qui se passe chez la Vierge Mère de Dieu se passe en fait à chaque conception, à chaque naissance, à chaque forme de vie. Mais cela nous échappe. Dans chaque naissance, il y a une dimension extérieure visible, l'union d'un homme et d'une femme. Et le reste, nous connaissons. Mais il y a aussi, à chaque fois, une dimension invisible, intérieure, l'union entre le ciel et la terre. À chaque conception. Et cette dimension invisible, cette réunion entre terre et ciel, est inexplicable pour le savoir purement rationnel et extérieur de l'homme. Car c'est l'énergie. L'énergie divine, une force d'amour qui est le principe même de la vie. C'est le secret dont Abel était imprégné parce qu'il avait offert le sang d'un agneau, symbole du fait que la source de toute vie est en Dieu. La vie est divine. Le vivant est le seul divin et que toute vie remonte à la source, à Dieu. Toute vie est saine. Cette mise en scène d'une conception virginale veut nous faire comprendre, et cela est important, que la vie en Dieu n'est pas d'une autre nature que la vie en l'homme. C'est de la même nature. La vie est la vie. Et il n'y a aucune différence, il y a seulement une différence entre le mode de conception de Marie et celui de toute autre conception, avec une signification, bien sûr. tout chez Marie s'inscrit dans la force de la foi authentique dans l'impossible, comme on a dit ce matin. Tout s'inscrit dans l'acceptation inconditionnelle de la vie. Mais cela n'est que possible qu'à partir du silence existentiel, qu'à partir entre les lignes, entre les mots, là où on se tait. Et c'est exprimé par le fameux « fiat » de Marie. Au fond, c'est la fête qui célèbre le mystère de toutes les conceptions qui ont lieu au cours de l'histoire. Et certainement, liturgiquement, durant l'histoire du salut. Depuis l'appel d'Abraham, la terre promise, le royaume de Dieu qui devient ici définitivement visible dans le sein de Marie. Car en Marie et ce qui a lieu, car en Marie et ce qui a lieu à chaque naissance, nous devons nous rendre compte, Dieu lui-même se choisit une terre promise, à savoir l'humanité. C'est seulement dans l'homme que Dieu vraiment pleinement forme, que l'homme, que Dieu peut naître. On pourrait dire autrement. Dieu quitte le paradis, pour ainsi dire, à la recherche de l'homme. Il l'a toujours fait. Quand Adam a été un peu trop orgueilleux, il se cache. Et Dieu aussi, il va à la recherche. Où es-tu ? Dieu quitte le paradis à la recherche de l'homme. Et après tout, c'est normal, parce que l'homme est à son image. Puisqu'il est écrit que l'homme a été créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Dieu entre dans le désert de l'existence humaine et se trouve ainsi une place dans le sein d'une vierge. Cependant, Dieu ne retournera pas au paradis sans nous. Le texte de l'Apocalypse nous éclaire très bien. Après avoir donné naissance à l'enfant, lorsqu'il est emporté devant le trône de Dieu, la mère n'est pas laissée à elle-même. Désormais, son fils, c'est-à-dire sa chair et son sang, sont auprès de Dieu et de son trône. Et le refuge que Dieu a préparé pour la mère dans le désert est au fond un escalier vers le même trône, disons une sorte d'antichambre. Qu'est-ce que ça pourrait signifier ? Ça pourrait quelque part signifier que tout dans notre vie n'est pas encore accompli, mais que désormais, le divin qui a trouvé refuge en nous, en l'homme pour s'incarner, nous a préparé un refuge. Mais où ? Dans le désert, notre silence intérieur, là où il n'y a plus des mots, plus des lignes. Et ce désert est notre Ézéchia, au fond de notre cœur. Le silence, notre ombre, c'est notre propre être, là où nous nous sentons si souvent seuls. Et cela, dit le texte, pour nourrir pendant 2160 jours, c'est-à-dire le temps symbolique jusqu'au retour, jusqu'au moment où toute la création sera accomplie. En cette fête de l'Annonciation, nous sommes invités à prendre rapidement conscience d'être des vrais enfants d'Ève, qui est la mère de la vie, afin d'être à notre tour Marie, de donner naissance chaque jour à la vie divine et de fuir chaque jour dans le désert de notre cœur, dans notre silence pour y rester vigilant à tout ce qui se passe dans la vie et ainsi faire advenir la guérison, celle dont l'humanité a tant besoin. C'est ainsi que nous donnons naissance à la vie divine. Retournons à nos deux maris. Là où Marie d'Égypte est une femme qui est vraisemblablement prend toujours l'initiative sur ses bateaux, Marie, la mère de Dieu, est celle qui ne prend pas l'initiative. Elle accueille, qui dit oui à l'initiative de la vie, qui entre inconditionnellement dans le mystère du vivant. Mais ce qui est commun aux deux maris, c'est le vrai sens de la fécondité. La fécondité d'Ève, qui est la mère de la vie, la fécondité qui n'appartient pas seulement à ces deux maris, qui n'est pas une fécondité historique, mais qui est la fécondité de tous les hommes, de toutes les femmes. C'est notre fécondité. Le fait que la fête de l'Annonciation ait lieu au seuil de la Semaine Sainte nous fait prendre conscience de la manière dont nous devons aborder liturgiquement la Passion, la Croix, la Mort, la Résurrection du Christ d'une part, et d'autre part, à travers cette liturgie, nous fait également prendre conscience de la manière dont nous devons nous-mêmes gérer nos frustrations, nos difficultés, notre kénose, notre croix, notre mort, notre résurrection. Est-ce que nous affrontons-nous la vie comme les fils de Zébédée, anxieux de n'obtenir qu'une vaine place d'honneur et de pouvoir dans le monde causal, y voulant tout maîtriser et contrôler? Ou confrontons-nous cela comme des filles d'Ève, en tant que terre fertile, d'où peut naître une vie divine? Nous le savons, ce n'est qu'à travers les épreuves de la vie que l'homme se déifie. La foi et l'engagement inconditionnel dans ce que le monde considère comme impossible, pas correct, marginal, et l'écoute à partir du silence, à partir de l'ombre, du vide, de l'incompréhensible, nous rendant féconds et nous rend conscients de notre maternité divine que nous avons chacun. Ainsi, il y aura unification après unification, donc guérison après guérison, naissance après naissance. Nous naissons à nous-mêmes, nous mettons nous-mêmes au monde, nous nous donnons naissance à nous-mêmes en tant qu'image et ressemblance de Dieu, en tant qu'une mère comme Marie qui enfante la vie divine, le vivant dans toute la création. Et je crois, chacun de nous sait alors en silence que la crèche de Bethléem est seulement rien d'autre que le fond de notre propre cœur. Le fond de notre propre cœur.